Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute d'Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et à tout de suite. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, il est 20h et c'est l'heure de Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on va débuter tout de suite cette émission par quelques annonces.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va se partager ça. Enfin, on va voir du coup si, voilà, s'il y en a qu'on ont, vous allez pouvoir me compléter. Voilà, si j'oublie des choses, on va commencer par ce qui se passe du côté de la Plume Noire. Ça va être ce samedi. Je vous entends taper sur votre micro, ça marche. Ça va être ce samedi 28 novembre à 18h30, donc à la Plume Noire, c'est toujours 8 rue Diderot et pas rue Pierre Blanc, comme deux personnes qui sont un peu égarées dimanche dernier. Donc voilà, c'est bien 8 rue Diderot, hein, même s'il y a des anciens articles qui traînent un peu sur les sites comme Rebellion ou autre avec l'ancienne adresse, mais c'est tout, enfin les vieux articles qui décrivent ce que c'est la Plume Noire, mais voilà, c'est bien 8 rue Diderot. Et donc ce sera donc les syndicalismes de lutte et de transformation sociale avec la projection du film On a grévé sur les luttes des personnels dans le secteur du nettoyage, en présence de syndicalistes du nettoyage de la CNTSO Lyon et de syndicalistes libertaires de la CGA Lyon. Il y aura aussi la présence d'Étienne Deschamps de la CNTSO Paris. Voilà, et la projection donc sera suivie d'une discussion. Il y aura aussi une petite bouffe apéro. Et comme vous l'avez compris, donc c'est un événement co-organisé par la CNTSO et la CGA Lyon. Donc On a grévé, donc c'est un film de Denis Gerbrandt, réalisé en 2014. Le petit résumé, c'est elles s'appellent Oulimata, Mariam, Géraldine, Fatoumata, trois petits points. Elles sont une petite vingtaine de femmes de chambre et pendant un mois, elles vont affronter le deuxième groupe hôtelier d'Europe. Pour la première fois, elles n'acceptent plus la manière dont elles sont traitées et elles tiendront jusqu'au bout avec force, musique et danse. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos sur le documentaire, vous pouvez aller sur le site des producteurs de ce doc, c'est Zogma Film. Et donc voilà, donc on vous donne rendez-vous samedi 28 novembre à partir de 18h30. Donc l'approche sera pas à 18h30, hein, on prendra le temps de vous accueillir, de boire un petit coup, de manger un peu, et puis l'approche sera plus sur les coups des 20h. Donc voilà. Je sais pas quand était ton annonce à toi que tu voulais faire. C'était ce vendredi.
C'est le vendredi 4 décembre.
Donc ah, ça, c'est un peu loin. Donc je reprends la parole.
Oui, tu continues sur ta lancée.
Je
dans
continue.
Chronologique.
Voilà.
Mon monologue.
C'était aussi pour vous dire. Bon là, il y a déjà des choses qui se sont passées, mais c'était la cette semaine-là. C'est la semaine d'action du collectif Jamais sans toi. Voilà, il y avait eu pas mal de trucs qui a été fait l'année dernière. Donc il y a un an, à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant qui n'est jamais respectée, le collectif Jamais sans toi, c'est de la rajouter, hein, mais le collectif Jamais sans toi alertait les autorités sur le nombre important d'élèves vivant dans la rue, dans les voitures, sous les ponts, en squat ou ballottés de foyers surpeuplés en hôtels insalubres. Des conditions de vie indignes incompatibles avec le suivi d'une scolarité, surtout quand ils sont ballottés à droite à gauche, alors qu'il existe 24 000 logements vides au sein de la métropole. Donc voilà, donc il y a eu cette semaine du coup d'action. Donc c'était dans les écoles Michel Servet dans le premier, Pinlevet et Mazenod dans le troisième, Gilbert Dru et Cavennes dans le septième, Jean Giono dans le huitième, Pierre Cotte à Bron, Édouard Herriot à Villeurbanne, Grand Clément et Langevin à Vaux-en-Velin. Donc voilà, il y a eu plusieurs trucs de fait déjà mardi soir. Il y a eu un peu de flip parce que, alors que des familles devaient être hébergées dans plusieurs écoles, ben lundi, il y a les municipaux qui sont arrivés avec des vigiles. Donc au début, tout le monde croyait un petit peu que c'était pour interdire l'accès aux familles au gymnase. Finalement, ça a pu être fait, mais on se méfie toujours de ce qui peut se passer. Donc il y avait des petites soirées de soutien, c'était hier, à Michel Servet et à... l'autre école, je sais plus lesquelles c'était, dans le troisième, il me semble.
Quatre écoles, je
crois. Voilà. Et c'est demain qu'il y a encore des choses, donc si vous voulez y passer, c'est demain à 16h30, ça se passera à l'école Gilbert Dru. Je crois que c'est un goûter solidaire, voilà, avec un peu de musique. Et à 18h, c'est à l'école Jean Giono. Et ça, c'est dans le 8e arrondissement. Donc voilà, donc si vous voulez passer, il n'y a pas de souci. Bah non, il n'y a pas de souci, passez-y même. Voilà, ça fera plaisir. Ça fait un peu de soutien. Passez, voilà, montrer que bah, qu'il n'y a pas moyen que ces familles et que personne dorme dehors globalement. Voilà. Vas-y, je t'en prie.
Juste les écoles, du coup, il y a Jean Giono dans le 8e, il y a l'école Mazenod dans le 3e. L'école Cavenne dans le 7e, à Vaux-en-Velin, il y a l'école Grand Clément et puis Michel Servet dans le 1er.
Donc voilà. Donc pas mal d'écoles comme l'année dernière bien mobilisées. Avec, à Vaux, ça fait un petit moment déjà, là, avec des familles à la rue. Donc, du coup, on squatte l'école, quoi. Il n'y a pas moyen que ces enfants et ces familles dorment dehors. Donc, si vous voulez suivre également il y a un compte Twitter du collectif Jamais Sans Toi. Donc, twitter.com/jamais sans toi. Si vous connectez sur Rébellion, il y a des infos qui sont mises à jour régulièrement. Voilà. N'hésitez pas à vous tenir au courant. Il y aura peut-être besoin de soutien de temps en temps si on voit que, ce cher colon, n'accepte plus que les écoles servent d'hébergement aux familles et plutôt que de trouver des solutions, les foutent dehors. Donc, là, il faudra du monde pour soutenir tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir au courant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? J'avais le 26 novembre, c'est donc demain aussi, de 18h à 22h, c'est un débat conférence, une réunion publique recours radiation. Voilà, l'intitulé c'est « Ils veulent nous contrôler, prenons le contrôle ». Voilà, donc c'est une présentation de cette association-là, recours radiation, de ses activités, des témoignages et débats sur les conséquences de la décision du Conseil d'État, voilà, par rapport aux radiations, au Pôle emploi, etc. Encore deux, trois petits trucs, si vous êtes du côté de Villefranche. Il y avait la ruche, le local La Ruche, autogérée, qui organise une bouffe à prix libre, donc pour soutenir le local, donc c'est vendredi soir, vendredi 27, à partir de 19h30. Voilà, donc je vous dis le petit truc, hein, l'appel face aux charges mensuelles liées à notre local, notre situation financière est difficile. Une bouffe de soutien à prix libre est organisée, donc voilà, le vendredi 27. Donc voilà, La Ruche, ça comprend une vingtaine d'adhérents qui versent entre 10 et 20 euros par mois en fonction de leurs possibilités. Le local a fait choix de demander aucune subvention municipale pour garder son autonomie d'action et ne pas dépendre d'une municipalité qui, par ses choix politiques, ne nous correspond pas. Cette démarche d'autogestion nous permet de pouvoir organiser plusieurs fois par mois des soirées en soutien au peuple opprimé. Chaque soirée est gratuite et suivie d'un repas à prix libre, permettant à toute personne de pouvoir accéder à une certaine information. Généralement, les bénéfices de ces soirées nous servent de trésorerie pour payer le local, mais nous tenons également à ce qu'une partie de ces sommes puisse être redistribuée directement aux populations opprimées. Une bibliothèque alternative composée de 70 bouquins permet à toute personne de pouvoir accéder gratuitement à une autre lecture. Voilà, à ce jour, différents collectifs sont hébergés à La Ruche, la CNT Interpro Villefranche, le collectif Caladois pour le peuple palestinien, le collectif de soutien aux sans-papiers, le groupe local de la Nef, Right to Movement, Impact, King Keliba, ainsi que des individus intéressés par ce qui se vit au local. Donc voilà, donc si vous voulez soutenir ce local-là, rendez-vous le 27 au 19 rue de Prony à Villefranche. Et encore deux petites choses, il y a aussi ce samedi 28 novembre, donc avant de venir à la Plume Noire pour la projection, à 15h à l'atelier des Canilars, il y a une réunion pour essayer d'ouvrir le collectif pour l'ouverture future d'un centre social autogéré à Lyon. Ça fait un petit moment que ce projet est proposé. Il y a plusieurs soirées de soutien déjà. Et donc là, c'est pour relancer un peu ce collectif. Donc, si vous voulez un petit peu, savoir ce qui peut y être fait, si vous avez des idées, la force, des impulsions, etc. Il faut en tout cas un peu plus de monde pour, pour redynamiser ce collectif. Donc, ça se passera le 28 novembre à 15h à l'atelier des Canulars. Et un petit rajout peut-être.
Juste le festival Migrants Scène qui est organisé par la CIMAD. Donc, du coup, il y a pas mal de choses toute la semaine. Il y avait des concerts ce soir et demain, il y a une conférence débat, l'étranger face au droit. Donc, ça se passera, je crois, à la bibliothèque municipale de Lyon.
C'est ça, je crois, il me semble. Ouais.
Ouais. Voilà. C'est pour rajouter.
Voilà pour les annonces.
Bah, j'en ai une aussi.
Ah, oui, c'est vrai.
Ça sera la semaine prochaine, donc le vendredi 4 décembre à 18h30. C'est l'œuvre d'un collectif de Lyonnais et Lyonnaises, je vais dire, parce que je n'ai pas d'autres précisions là-dessus. Donc, qui nous invite à une projection débat sur les violences sexuelles incestueuses. Il y aura la projection de deux films et débat donc sur ce problème. La conspiration, donc pour les films, c'est La conspiration des oreilles bouchées, c'est de 1989, qui est un film réalisé par Carole Roussopoulos, qui est une documentariste engagée issue du mouvement féministe des années 70. Pour le CFCV, c'est le collectif féministe contre le viol. Et le second film, c'est Longtemps après, c'est un film de 2013, réalisé par Brigitte Lemaine, documentariste sociologue dont je lis le petit papier que j'ai sous les yeux, hein, dont les recherches et films portent sur ceux qui sont privés de parole ou rendus muets par la loi du silence, avec l'aide notamment du ministère des droits des femmes. Voilà. Donc c'est ce vendredi, je précise, hein, c'est ce vendredi 4 décembre, enfin la semaine prochaine en fait. Voilà, on le rappellera mercredi prochain.
Ouais. Hein. Pas de souci.
Musique, les amis.
Petite pause musicale après cette
annonce.
Allez,
dans le cadre de musique et chansons de jadis et d'aujourd'hui, on va écouter l'excellente, quand même, Catherine Sauvage, qui nous interprète L'Homme. C'est parti.
Veste à carreaux, bien smoking, un portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings, déjà voûté par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dames avec la bonne, c'est l'homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à cour chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan et le reste pour l'Amazone, c'est l'homme. Les 5 à 7 pas vu pas pris, la romance qui tourne à vide, le sens du devoir accompli et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès au secret de Polichinelle, l'amour qu'on prend comme un express alors qu'elle veut faire la vaisselle, c'est l'homme. Qui part le matin à l'autobus de l'aventure et qui revient d'après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone, le chien qu'on prend comme un ami quand il ne reste plus personne, c'est l'homme. Les tempes grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour rafistolés, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la fleur de l'âge, c'est l'homme. Le va-t'en guerre, il faut y aller, qui bouffe de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la pochette, le complexe de panoplie que l'on guérit à la buvette, c'est l'homme. L'inconnu qui salue bien bas les lents et douloureux cortèges et qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu morne et glacé qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine, c'est l'homme.
Voilà, c'était certains hommes. Donc, vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires, hein, sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on va passer à une première page d'infos.
Oui, voilà, on va faire un gros point sur l'état d'urgence, sur la lutte en soutien aux migrants et aux migrantes. On va commencer par au niveau local, ce qui s'est passé ou plutôt pas passé samedi dernier. Il y avait un rassemblement qui a été appelé donc par un collectif unitaire de soutien aux migrants et aux migrantes qui appelait à un rassemblement. Donc c'était normalement samedi 21 novembre, samedi dernier, place des Terreaux. Et donc ce collectif avait déjà organisé un rassemblement, une manif, voilà, au mois d'octobre, qui avait réuni quand même un peu de monde. On s'était baladé de Terreaux à Bellecourt. Et là, donc, la veille du rassemblement, le préfet a décidé, donc, du coup, d'interdire celui-ci. Alors, ce qui est très drôle, c'est que la nouvelle, on l'a appris un petit peu, parce que du coup, la CGA Lyon est signataire et fait partie de ce collectif, c'est qu'on l'a appris par voie de presse. C'est ce qui est souvent très drôle quand même. C'est que du coup, les organisateurs, même ceux qui avaient déclaré du coup le rassemblement, n'étaient pas au courant que c'était interdit. Et donc, suite à cette interdiction, avec notamment des motifs un peu bizarres, on va dire, on va vous lire le communiqué de presse qui a été écrit par ce collectif-là. Voilà, donc je vous dis tout ça. Un rassemblement a été appelé le 21 novembre en solidarité avec les migrants et migrantes et réfugiés pour la liberté de circulation. pour que la métropole ouvre ses logements vides aux réfugiés et migrantes sans abri ou expulsés, pour que la métropole assure l'aide à l'enfance pour les mineurs étrangers isolés. Le collectif d'organisations signataires de l'appel du 21 novembre en solidarité donc avec les migrantes, émigrants et réfugiés condamne l'interdiction qui frappe ce rassemblement. Il proteste contre le fait que l'état d'urgence réduise les libertés. La préfecture invoque le risque d'agression par l'extrême droite contre notre rassemblement pour justifier son interdiction. C'est sans précédent et un tel argument ne peut que légitimer la violence des fascistes. Après les terribles attentats de Paris, notre solidarité est d'autant plus nécessaire que nombre de réfugiés, émigrants et migrantes ont fui des violences de ce type. Qu'ils ou elles soient nommés réfugiés, migrants, migrantes ou sans papiers, ils et elles sont aussi des victimes des guerres et ou de la misère qui les ont contraints et contraintes à quitter leur pays. Les organisations se retrouveront dans les plus brefs délais pour envisager les suites à donner à nos mobilisations. Voilà, signé du collectif unitaire de soutien aux migrants et aux migrantes. Et on peut d'ores et déjà vous dire de réserver votre jeudi 3 décembre à partir de 18h, voilà, pour un nouveau rassemblement qui va être posé et on va attendre tranquillement.
Au terreau encore ?
Voilà, au terreau, sur le même appel. Donc, ça va être relancé, vous le verrez sûrement dans votre réseau, l'appel tourné. En attendant, bien évidemment, la décision de la préfecture ce coup-ci.
On peut rappeler aussi que ce même préfet, cette même préfecture avait interdit la marche des fiertés de passer dans le Vieux Lyon,
voilà,
au 5e arrondissement.
Sous le même prétexte.
Au mois de juin, sous ces fallacieux prétextes, évidemment, de tranquillité du citoyen, tranquillité du bourgeois, enfin bref. Et surtout la tranquillité des fachos.
Voilà.
Merci, monsieur le préfet. Merci.
Monsieur Depeche.
Sympa.
Et vous avez sûrement entendu aussi ce qui s'est passé à Paris ce dimanche. Donc pareil, on l'a avec à Paris un peu plus longtemps avec un arrêté préfectoral avec interdiction de manifester jusqu'au 30 novembre. Eh ben, il y a des personnes qui avaient décidé d'organiser une manifestation tout de même. C'était le 22 novembre. Une erreur sur la date, mais sur le truc.
Ouais.
Mais voilà. C'était dimanche, voilà, ce dimanche. Donc, dimanche 22 novembre. Voilà.
Ah, d'accord.
Ouais, qui était du coup appelé depuis un moment, donc avant les attentats. Donc, c'était un rassemblement de soutien aux migrants et aux migrantes. Voilà. Avec revendications, ordre, voilà. Avec les mêmes mots d'ordre un petit peu de ce qu'on donnait. Régulation de tous les sans-papiers. Voilà. Libre circulation et d'installation pour toutes et tous. Donc, ce rassemblement, forcément, avait été interdit. Et donc, pas l'ensemble, des signataires, mais une partie des signataires avaient décidé quand même de braver cette interdiction-là et d'aller dans la rue.
Ce qu'ils ont fait.
Donc au départ, c'était sous forme d'un rassemblement. Et vu qu'il y avait du monde, les gens se sont dit, vu que c'était une manif au départ, on va essayer, quoi. Et donc la police a été très vite débordée. Et donc la manifestation a pu se faire, ce qui était plutôt bien.
Ils ont réussi à rallier.
Voilà, la place de la République, c'était ça.
Quoi, c'était le point final.
Le point final de la manif. Donc très positif là-dessus. Voilà, parce qu'on n'avait pas non plus à attendre. Parce que là, les arrêtés. Préfectoraux et tout ça, ils vont se multiplier et sur la durée, donc ça veut dire que mine de rien, on va pas pouvoir faire grand chose. Si on prend pas la rue nous-mêmes, on pourra pas. Le souci, donc, c'est qu'on a appris dans la foulée, donc le lendemain ou dans la soirée, que la préfecture de police avait balancé 58 noms de personnes qui avaient été reconnues dans la manif et que depuis ce matin, les convocations sont tombées. Donc convocation au commissariat,
ils sont transformés en garde à vue.
Avec des gardes à vue pour certains et certaines. On attend encore des nouvelles, des personnes qui étaient convoquées pour faire un point plus précis. Mais comme ça date de ce matin, c'est un petit peu compliqué. Et on va vous lire, parce que du coup le groupe de la CGA région parisienne est impliqué dans cette lutte, était présent dans la rue. On va vous lire le communiqué du coup des camarades de Paris.
Ouais, alors du coup, dimanche 22 novembre, donc, les militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes région parisienne étaient dans la rue pour affirmer leur solidarité aux migrants et migrantes, avec pour revendication la régularisation des sans-papiers et plus largement la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Malgré l'interdiction de la manifestation, des centaines de personnes se sont rassemblées à la Bastille et large part d'entre elles ont décidé de manifester jusqu'à Place de la République, comme le prévoyait le parcours initial. C'est avec cette détermination que les manifestantes et manifestants ont repoussé les tentatives policières visant à stopper les cortèges, avec des slogans en soutien aux sans-papiers, mais aussi contre l'état d'urgence. Rappelons que la solution aux problèmes terroristes ne réside pas dans la restriction importante de nos libertés, ni dans la guerre en Syrie. La solution est en premier lieu politique et non pas sécuritaire. En soutenant les forces progressistes et révolutionnaires kurdes qui se battent sur le terrain contre Daesh et en réaffirmant ici notre solidarité de classe, notamment avec les migrantes et migrants. Hier, lundi 23 novembre, la préfecture de police annonçait avoir transmis les noms de 58 personnes accusées d'avoir bravé l'interdiction de manifester à Paris en défilant au soutien aux migrants et migrantes et contre l'état d'urgence. Aujourd'hui, plusieurs militantes et militants ont reçu des convocations au commissariat sous chef d'inculpation. Ces menaces de poursuite confirment ainsi les craintes que nous avions déjà exprimées au sujet de l'état d'urgence. Avant d'être un dispositif censé protéger la population d'une menace terroriste, l'état d'urgence est avant tout une aubaine pour le gouvernement pour renforcer sa politique antisociale, raciste et sécuritaire. La CDA région parisienne exige qu'aucune poursuite ne soit engagée contre les personnes identifiées, ainsi que la fin de l'interdiction de manifester en Île-de-France. Nous continuerons à exprimer notre solidarité de classe par tous les moyens que nous jugerons nécessaires, dont la manifestation. L'état d'urgence souhaite faire taire le mouvement social, nous ne le laisserons pas faire.
Voilà. Donc voilà pour ce communiqué des camarades de la région parisienne, tout sachant qu'on va suivre ça de très près, voilà, sur les suites, notamment judiciaires, des personnes qui ont été convoquées. Et puis surtout en disant haut et fort que ça n'empêchera pas les gens de sortir dans la rue de toute manière, qu'ils ne pourront pas faire durer l'état d'urgence éternellement et que voilà, c'est un droit d'aller dans la rue, il faut le prendre parce que puisqu'on nous l'interdit maintenant. Tout ça pour vous dire aussi qu'à Paris, ça se bouge, qu'il y a eu du coup une assemblée récemment en solidarité avec les migrants et migrantes et les convoqués du coup au commissariat. Je vous lis un petit peu les décisions qui ont été prises via cette assemblée-là. Donc avec des prochains rendez-vous dans la rue, donc voilà, qui vont encore braver cette interdiction, parce que sur Paris, c'est jusqu'au 30 novembre. Donc avec des manifestations des lycéens et lycéennes, étudiants et étudiantes contre la COP21, donc ce sera le jeudi 26 novembre et le vendredi 27 novembre à 11h, place de la Nation. Un rassemblement pour le droit à manifester, on y revient un petit peu plus tard, le jeudi 26 novembre à 18h, place de la République. Une manifestation contre la COP21 le dimanche 29 novembre à 12h, place de la République. Et une manifestation contre les frontières et pour la liberté de circulation le dimanche 6 décembre à 15h, place de la Bastille. Je vous reparle un tout petit peu de ce rassemblement du coup contre manifestation, donc contre l'interdiction de manifester. Donc cet appel qui est donc pour demain à 18h, place de la République sur Paris, donc pour protester contre l'atteinte au droit imprescriptible de se rassembler, de manifester et pour exiger que soit mis fin à cette censure intolérable et nauséabonde. À la suite des ignobles et crus attentats du 13 novembre que nous condamnons sans réserve, le gouvernement a donc décidé dans le cadre de l'état d'urgence différentes mesures parmi lesquelles l'interdiction de manifester à Paris et dans de nombreuses villes. Nous, mouvements sociaux, sommes interdits de nous rassembler, de manifester dans les rues jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs manifestations pacifiques sans rapport avec les attentats ont déjà été interdites sous menace de sanctions pénales à l'encontre des organisateurs ou organisatrices. Donc voilà, donc on va suivre ça de très très près aussi parce que voilà, ça va aussi avoir un impact sur ce qui peut se passer sur Lyon prochainement. Voilà, s'il y a de nouveau énormément d'interdictions, ça va être voilà. Hein. On va voir ce qui se passe dans la rue. Et on voulait faire un petit peu du coup un point plus précis sur l'état d'urgence. Voilà, pour refaire un point pour savoir exactement ce que c'était cet état d'urgence. Donc c'est un texte donc régi par une loi votée, vous avez sûrement entendu, en 1955 en pleine guerre d'Algérie. L'article 1er de la loi donc de ce 3 avril 55, modifié instituant l'état d'urgence, dispose que l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. À noter le caractère donc particulièrement vague de la définition. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il a été utilisé à plusieurs reprises, donc c'était durant la guerre d'Algérie, mais uniquement sur le territoire colonisé, donc l'ancienne Algérie française, de 55 à 61, avec des durées indéterminées pour des durées allant jusqu'à 12 mois. Dans les territoires occupés, en Kanaky, en Nouvelle-Calédonie, pendant près de 6 mois, et en 2005, vous en souvenez aussi, pendant la vague d'émeutes qui touchait les cités françaises. C'était pour l'instant l'unique fois qu'il avait utilisé en France métropolitaine. Donc voilà, donc il y a toute une batterie de mesures, vous avez sûrement aussi entendu parler, vous savez aussi que cette agence a été du coup, étendue, merci, au DOM et au TOM, voilà, aussi au DOM et au TOM, donc voilà, sous la demande de Valls, et on va vous faire un petit état des lieux de toutes les mesures de cet état d'urgence. Donc il y a le couvre-feu, donc le préfet peut décider d'un couvre-feu, ouais, c'est-à-dire de l'interdiction de circuler à pied ou en voiture dans un endroit donné à certaines heures. Donc ça a été le cas déjà à Sens, je crois, enfin je vais pas dire de bêtises, mais du coup dans une commune où ils avaient, après une perquisition, avaient trouvé 2-3 armes. Du coup là, pendant quelques jours, ça a été effectivement couvre-feu de 22h à 6h du mat, donc interdiction de circuler. Donc le deuxième point, c'est l'interdiction de circulation. Donc le préfet peut décider une interdiction permanente de la circulation, par exemple autour de bâtiments sensibles. L'interdiction de séjour, le préfet peut décider d'une interdiction de séjour dans certaines zones pour des personnes, entre guillemets, cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics. Donc, voilà, c'est large hein, quand même. La fermeture des lieux, donc le préfet peut ordonner la fermeture des salles de spectacle, des débits de boissons ou les lieux de réunion de toute nature.
D'ailleurs, dans le nord de la France, ils ont interdit la vente de boissons après 22h, je crois.
Voilà, donc ça commence. Et interdire les réunions, même dans un endroit privé, si elles sont de nature à entretenir le désordre. Waouh. Donc accrochez-vous quand même. Le ministre de l'Intérieur peut faire la même chose au niveau national, merci. La remise des armes, donc le préfet ou le ministre de l'Intérieur peuvent ordonner la remise des armes dans un département ou un niveau national, des réquisitions sont possibles. L'assignation à résidence aussi est décidée par le ministère de l'Intérieur contre toute personne contre laquelle il existe une raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Il y a deux types d'assignation à résidence. Celle qui se fait dans un lieu choisi, entre guillemets, par le ministère de l'Intérieur, sachant que le ministre de l'Intérieur peut faire conduire cette personne sur les lieux de l'assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie, et celle qui se fait dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'Intérieur pendant la plage horaire dans la limite de 12 heures par 24 heures avec obligation de pointage et remise des documents d'identité. Waouh. On ne sait pas en quoi peut consister le lieu entre guillemets fixé par le ministre de l'Intérieur, si ce n'est que la loi de 55 précise qu'il ne peut s'agir d'un camp de détention. Le ministre de l'Intérieur peut de plus imposer à la personne assignée à résidence des obligations de pointage, donc au commissariat de gendarmerie, la remise du passeport ou carte d'identité et l'interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes. Donc toujours très vaste ce genre de truc. Il peut aussi y avoir des perquisitions administratives, il y en a eu énormément, vous en avez sûrement entendu parler, donc perquisitions administratives sont possibles sans restriction d'heure, donc est possible dans tout lieu, sauf chez les parlementaires, je rigole, désolé, les avocats, les journalistes ou les magistrats, voilà, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Donc c'est toujours hyper vaste, hein. Vous pouvez étendre ça du coup forcément au terrorisme et beaucoup plus large que ça. La perquisition administrative signifie qu'on est hors du cadre des enquêtes judiciaires, donc un OPJ les assiste et donc en cas de saisie d'objets illégaux, une procédure judiciaire suivra. Il y a aussi la dissolution d'associations ou de groupements de faits, donc ça, voilà, hyper large aussi, et l'interruption de la diffusion de sites en ligne. Et par rapport aux répressions et peines, bah voilà, celles-ci sont mentionnées toujours à titre indicatif, mais il s'agit des peines maximales applicables, mais elles ne le sont quasiment jamais aux personnes sans antécédent judiciaire. Mais pour ceux qu'on ont, voilà, ça peut être le cas. Les infractions sur les restrictions de circulation, par exemple pendant le couvre-feu, l'interdiction des réunions publiques et la remise des armes sont punies de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Les infractions à l'assignation à résidence dans le lieu choisi par le ministère sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Les infractions aux autres dispositions concernant l'assignation sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et le fait de participer, voilà, bah ça c'est le groupe dissous, mais ça n'a pas d'importance là-dessus. Donc voilà, pour les personnes par exemple qui manifestaient sur Paris, bah voilà, ça peut être du coup 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Un peu d'autres choses, parce qu'il y a déjà eu... Bah, si tu veux, vas-y, pas de souci.
Je ne sais pas exactement dans quel cas dans ça, mais il y a aussi la mise en place là, possible de centres de déradicalisation. Donc, qui, a priori, seraient destinés à des jeunes dont on estime qu'ils seraient donc, radicalisés et qui, donc, il y aurait un risque
qui passe à l'action, mais
ouais,
du coup, voilà,
ça mais du coup, en fait, on n'a aucune définition de qui, qu'est-ce qu'ils définissent comme un jeune radicalisé.
Ouais, puis on sait surtout pas ce qu'il y aura dedans, qui bossera dedans. Donc, ouais. C'est vrai que du coup, il y avait des élus de droite qui avaient demandé des centres d'internement carrément. Est-ce que ça va y ressembler ou pas, vu qu'il y a une grosse pression de tout le monde en ce moment, qu'il y a plein de lois qui ont été votées main dans la main, du PS jusqu'au FN, quoi. Même du front de gauche jusqu'au FN.
Mais bon, a priori, c'est voilà. Certain. Hein, ça, donc, voilà, le premier devrait ouvrir ses portes début 2016.
Donc, il faudra voir du coup ce que ça donne. Et puis, on voulait déjà vous donner aussi quelques cas déjà concrets de l'application de cet état d'urgence. Donc, on vous a parlé des nombreuses perquisitions donc, qu'on a eu dans toute la France. Il y a eu au moins 118 personnes qui sont assignées à résidence. Donc, les manifestations politiques ou solidaires sont interdites. Des populations entières peuvent vivre sous un couvre-feu sans qu'on sache bien le rapport avec l'antiterrorisme. Ça a été le cas notamment sur Saint-Denis pendant un temps, là, pendant l'intervention. Dans certaines villes, ce sont les mineurs qui sont victimes de ce couvre-feu. Voilà, pas de grand rapport non plus avec le terrorisme, vous le pensez bien.
Il y a aussi tout un convoi là, qui était parti de Notre-Dame-des-Landes, de 200 cyclistes, 5 tracteurs et une cantine mobile qui est petit à petit en fait interdit, qui montait sur Paris pour la COP21 et dont on leur barre l'accès en fait département après département quoi. Alors, ils essaient de changer de route mais on se demande bien quel est le risque d'un
ça
convoi.
Ça quadriller
ça. Ça avancera pas.
Quadriller l'hexagone.
Et puis par rapport aux victimes de cet état d'urgence, une petite brève par rapport à Saint-Denis. Donc, vous savez du coup qu'il y a eu un assaut là-bas dans un quartier. Et ben, du coup, la justice va en profiter pour expulser un sans-papiers blessé par erreur par la police lors de l'assaut. toujours sympa quoi du coup. Voilà, donc le frigo, la télé, le lavabo d'Ahmed ont été touchés lors des échanges de tirs entre flics et djihadistes dont ils étaient voisins mercredi à Saint-Denis. Laissé au beau milieu des rafales, il a dû se calfeutrer comme il pouvait pendant plusieurs heures derrière un bout de bois. Il a quand même pris une balle dans le bras qui lui laisse un plat de l'épaule jusqu'au poignet, donc une balle tirée par la police. Ça ne se serait pas probablement pas passé comme ça à Neuilly, mais le pire n'était pas encore arrivé. Bien qu'il soit en France depuis 2006, Ahmed, peintre en bâtiment, est toujours sans papier. À l'issue de son audition, tout de suite après son passage à l'hôpital, les flics avaient encore une saloperie en réserve. Tout à leur esprit patriotique bleu, blanc, rouge et de chasse à l'étranger, ils ont décidé de délivrer une obligation de quitter le territoire à celui qu'ils avaient salement blessé, avec la fierté du devoir accompli, certainement. Merci pour la saloperie. On vous conseille aussi un article que vous pouvez trouver sur Parulut Info, qui s'appelle « La peur de l'intérieur d'un habitant de l'hypercentre de Saint-Denis », donc pour en tout cet assaut. Lisez, c'est assez flippant. Voilà. Et on voulait aussi lire un communiqué de nouveau de nos camarades de la région parisienne, de la CGA région parisienne, parce que il y a tout un amalgame qui a été fait vu que la personne se trouvait dans un pseudo-squat. Du coup, dans la presse, on a pointé du doigt donc le squat et puis les squats en général, en disant que c'était des endroits dangereux. Ça n'était pas un du tout même, ouais, ça n'était pas ça, un. Mais du coup, dans la presse, c'est ce qui a été dit et ce que les gens ont retenu, et que du coup, a priori, la mairie en profite. Vous savez qu'à Saint-Denis, il y a des grosses mobilisations, notamment sur le logement, avec beaucoup de mal logés, avec pas mal de squats et pas mal de solidarité là-dessus. Et donc du coup, voilà, à Saint-Denis, quand la mairie et l'État font l'amalgame entre squat et terrorisme, réponse de mal logés à la mairie de Saint-Denis suite aux attaques formulées envers les, entre guillemets, squatteurs et squatteuses. Aujourd'hui, alors que l'opération policière prenait fin, l'adjoint au maire de Saint-Denis a déclaré que l'appartement où étaient hébergés les terroristes, rue du Corbillon à Saint-Denis, était un squat. Fausse info, reprise en boucle par tous les médias. En effet, le procureur de la République a mentionné des, entre guillemets, logements conspiratifs, loués à Saint-Denis et ailleurs. Derrière ce discours associant squat à terroristes se cache une malhonnête tentative de semer la confusion et de criminaliser les squats de Saint-Denis et leurs occupants. Non, un appart loué, prêté ou utilisé par plusieurs personnes n'est pas un squat. Un squat est un bâtiment laissé vide par des propriétaires et réquisitionné par des mal logés, victimes des politiques de rénovation urbaine, des expulsions et de la misère sociale. Le mot squat a donc un sens politique. Mardi 17 novembre à 8h du matin, le raid a débarqué dans deux maisons du quartier Moulin à Lille. Dans le Nord, ce n'était pas une opération antiterroriste, il s'agissait d'en expulser ses occupants. Non, les squatteurs et squatteuses ne sont pas des terroristes, ce sont des mal logés. Ce n'est pas ordinaire d'utiliser ces forces-là pour ce type de mission, confirme une source policière. Mais comme elles sont actuellement très mobilisées, on en profite pour se servir du matériel qu'elles détiennent. Formidable. Donc doit-on craindre que l'utilisation de ces, entre guillemets, forces devienne ordinaire ? Nous jugeons cette opération complètement disproportionnée. La prolongation de l'état d'urgence amènera-t-il ce genre de situation à se répéter ? Verra-t-on la même chose à Saint-Denis ? Derrière le cynisme et la brutalité des actes, nous dénonçons la mairie de Saint-Denis qui soutient les propriétaires, qui expulsera certainement l'attiéqué, menaçant les 40 personnes habitantes de se retrouver à la rue, et qui laisse faire les expulsions sur la ville et a même diligenté les expulsions comme l'immeuble de Guantanamo il y a 2 ans, avec qui nous nous sommes mobilisés. Nous dénonçons cette mairie qui met en place la rénovation, qui fait l'épuration sociale, qui instrumentalise les événements de la journée pour attaquer les occupants des squats de la ville. Nous dénonçons cette propagande d'État qui vise à criminaliser les squatteurs et squatteuses et toutes celles et tous ceux qui luttent pour leur droit à vivre dignement. Donc voilà, donc ça c'était pour ce nouveau communiqué des copains de la région parisienne. Et puis pour finir avec ce point, désolé qui est assez long, mais un dernier petit truc surtout sur les abus dire. Du coup, sur les perquisitions musclées, les arrestations injustifiées, etc., etc. 2-3 exemples, hein, Mickaël, 27 ans, qui regardait un film d'action dans le TGV Marseille-Rennes, le 20 novembre, en compagnie d'un autre homme, mal lui en a pris. En gare de Massy, la police évacue le train et lui saute dessus pour l'arrêter. Des passagers auraient trouvé suspect son comportement et son aspect. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le jeune homme était barbu et il portait des gants. Choqué, il a été libéré au bout de 4 heures. Cette histoire n'est qu'un exemple des nombreux cas révélés cette semaine. Voilà, un état administratif dans nos forces de l'ordre, de larges moyens d'action, mais aussi un état collectif prompt à l'emballement. Autre histoire édifiante, celle que raconte un autre journal sur ce jeune homme dont le père de 67 ans a été interpellé manu militari mardi 17 novembre à Boulogne-sur-Mer. Sofiane avait accompagné son père à la préfecture la veille pour une démarche administrative. Les forces de l'ordre l'auraient alors repéré prenant des photos, ce qu'il dément. Résultat, la police enfonce la porte du domicile familial, foule l'appartement de fond en comble et arrête son père qui passe la nuit en garde à vue. À Camvrechin, dans le Nord, Fatima et sa fille ont subi une brusque perquisition de nuit au motif qu'un homme que les autorités suspectaient de détenir des armes de guerre avait habité dans la maison par le passé. Formidable. La jeune fille raconte les lasers dans l'appartement, la porte qui vole en éclats, sa mère de 43 ans menottée pour une perquisition qui n'a rien donné. Les victimes des bavures sont parfois très jeunes et impressionnables. À Nice, une petite fille de 6 ans a été blessée par des éclats au cou lors d'une perquisition jeudi. À 4h30 du matin, les policiers d'élite du raid enfoncent la porte de l'appartement familial, plaquent le père au sol. Les voisins évoquent des tirs dans les serrures que la police dément, mais c'est bien par des éclats de bois qu'a été blessée la fillette, touchée alors qu'elle dormait dans la chambre d'à côté. Et le tout pour rien. La police s'est trompée de porte. Elle visait en fait le voisin. Hospitalisée, la petite fille n'a rien de grave et la police a reconnu une erreur grave. Tu m'étonnes. Et une dernière petite chose, voilà. Ibrahim Malouf, trompettiste français renommé qui a rendu hommage aux victimes, notamment sur un plateau de télé récemment, a été retenu plusieurs heures par des policiers Gare du Nord à Paris avant de monter dans un train Eurostar pour Londres. Le natif de Beyrouth, au Liban, aurait alors appris que son passeport avait fait l'objet d'un signalement auprès de l'organisme de coopération policière Interpol. Papiers confisqués, interrogatoires, etc. Une fois relâché, il raconte sa mésaventure qui impute la responsabilité à la douane au lieu de la police. Le musicien prend ensuite son train avant d'être invité en descente par trois agents de la douane, pardon, fâchés d'avoir été associés à l'épisode. Enfin voilà, c'est complètement fou quoi. Voilà, plus si on donne les conséquences aussi. Voilà, on voulait aussi rajouter, c'est qu'il y a donc il y a les municipalités qui peuvent du coup depuis quelques jours, je crois, armer leur police municipale. Ouais. Donc Colomb, qui s'était dit opposé au passé, s'est dit très intéressé maintenant. Donc ça promet, vu comme déjà elle est suréquipée. Et surtout, les flics vont pouvoir porter, ça a été décidé aujourd'hui, voilà, porter leurs armes hors service. Comme vous êtes Julien,
ça n'a pas été décidé aujourd'hui, mais du coup, l'application
était pour aujourd'hui.
Est passée dès aujourd'hui. Ouais.
Donc voilà, formidable. Et voilà, on ne parlera pas non plus de tous les actes. Alors, c'est recensé aussi sur Lutte Info et sur Rebellion, voilà, les actes racistes, islamophobes depuis les attentats, mais il y en a un paquet aussi. Donc voilà, le climat est difficile, va falloir serrer les coudes, on le disait déjà la semaine dernière, mais je pense qu'on va le répéter toutes les semaines pendant peut-être plusieurs mois, voilà. Puis quand il faudra reprendre le terrain, on le reprendra. On se fait une petite pause après cette page.
Oui.
Donc c'est à vous, votre musique.
Du coup, on reste dans un peu classique avec une chanson italienne de Rino Gaetano qui s'appelle In Mei Sogni d'Anarchia. Et c'est parti.
Viveva nei suoi sogni e la sua voglia di imparare. Più in fretta il metodo inglese, cucinare, fare l'amore. Lei impazziva fra le ricerche di cosmesi, rimmel e maquillage. Le letture pavese, Ginsberg, De Gregori e fiumi. Di là, legato alle tradizioni, ma io l'amavo e lei amava me, nei suoi sogni ritrovavo anche un po' di me. Scopriva ogni giorno il valore del denaro e le conseguenze. Toccava il cielo con un dito e sanava le ferite con la rivoluzione. Ancora coeti un nuovo sound delle balene. E forse amante, e il 68 raccontato e le conquiste, le canzoni che dicevano, oh, 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 io l'amavo e lei amava me, nei suoi sogni ritrovavo. Conti e la paura.
strane cose che stritolavano il passato, il feudalesimo e l'anarchia, i sogni, l'anarchia, i miei sogni, l'anarchia. Io l'amavo e lei amava me.
Et c'est reparti, vous êtes toujours sur Radio Canu avec Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et maintenant, c'est la rubrique Lutte sociale avec Daniel.
Lutte sociale, et on va aller du côté de la Bretagne, du Morbihan, de Pontivy, mignonne petite bourgade, hein, donc de ce Morbihan. Mais ce qui n'est pas très chouette, c'est qu'il y a une fermeture de site qui passe mal à Pontivy. C'est normal, on ne danse pas la lambada quand on va perdre son boulot. Que l'on apprend la mauvaise nouvelle fin septembre, eh ben, c'est ce qui est arrivé aux travailleurs et travailleuses de JH Industries, un site donc de Pontivy qui fait dans la menuiserie industrielle. 87 postes concernés, un carnet de commandes en baisse, ça c'est classico-classique chez les patrons. Un PSE donc en suivant, 37 licenciements, 50 reclassements sur Chaland, qui est le siège donc de cette entreprise. C'est la proposition de la direction, du moins dans un premier temps. C'est maigre pour l'intersyndicale, ce sont des os à ronger. Par conséquent, grève immédiate avec des revendications là aussi classico-classiques. Les primes extra-légales en sus des primes légales. Bon, voilà, classico toujours. Point noir cependant, bah, c'est que les reclassements sur Chaland, bah, il n'y a pas de place à Chaland. En fait, selon les délégués du personnel qui sont sur place, donc à Chaland, qui est le siège social, hein, je le répète, la grève donc se poursuit, là aussi c'est classico, jusqu'à la levée du brouillard. À Paris, le 18 novembre, c'est une mobilisation des conducteurs et conductrices, hein, de bus de la RATP. En plein marasme, donc à Paris, une mobilisation, piquet de grève maintenu dans les dépôts sur appel de la CGT, de FO et de Sud, et dénoncé ce mal récurrent dont est touché le monde du travail partout, le sous-effectif qui est dénoncé, une gestion calamiteuse également, un manque d'informations, notamment lors de la journée de ce vendredi 13. Terrible vendredi 13 et les jours qui ont suivi. On va partir maintenant du côté, enfin on va citer la société CHEM, SHEM, hein, donc c'est la société hydroélectrique du Midi, qui est une filiale de Engie, ex-GDF Suez, comme chacun sait, troisième producteur mondial d'énergie, actionnaire principal, bah, c'est l'État français pour un tiers du capital. Et bien là, on est dans le domaine de la fourniture d'énergie, je disais, depuis 2008. Que cette entreprise existe. J'ai dit l'essentiel, et ben non, car au 20 novembre, 65% du personnel CHEM était en grève. Alors le souci ici, ben, c'est la concession hydroélectrique de Oura de Larrain, c'est dans les Pyrénées, qui est à renouveler. Or, comme chacun le sait, que je l'ai rappelé récemment, Bruxelles, donc l'Union européenne, a des directives d'ouverture au marché européen, donc à la concurrence. Alors, inquiétude des syndicats qui exigent des investissements. La décision sera prise après la COP21, bien comme par hasard. Lors de cette journée, donc le 20 octobre, qui a été grévée, 200 personnes étaient présentes à Oura, venues de Dordogne, du Massif central, des Pyrénées. Toutes des régions où est implantée la CHEM. Ah, au fait, à Oura, il y a une Vierge et il y en a même deux. Une petite et une grande. Alors on n'y pense jamais à ça, et si ça marche pas de ce côté, ben il y a aussi une falaise, la falaise du Oura, au cas où il faudra se jeter de cette falaise. Enfin, j'espère que vous avez compris la petite blague venette. Bon, bref, à Marseille maintenant, il n'y a pas que la SNCM à Marseille, il y a aussi les employés du nettoyage dit les femmes de ménage en grève avec leur syndicat CNTSO, section de la société Honnête Service, encore eux, de l'hôtel Adagio sur le Vieux-Port. Ce 20 novembre, et ce pour donc cette grève pour dénoncer leurs conditions de travail, la précarité, les dérives habituelles de sous-traitance dans ce métier, alimenté à gogo par des CDD et des contrats d'intérim, même lorsque vous avez plusieurs années de présence. Déjà avant les vacances, il y avait eu des revendications, donc les mêmes, qui n'ont pas eu évidemment d'écho de la part de la direction, qui plus est, et qui plus est, donc les salariés impliquées n'ont pas été reprises et réemployées, comme ils disent, à partir de d'octobre. Ce malgré les promesses patronales à leurs syndicats. Alors les revendications ici, jetons-y un coup d'œil, eh bien c'est la réintégration évidemment des personnes qui n'ont pas été reprises, la pérennisation des contrats intérim, les heures supplémentaires intégralement payées, interruption de la pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire, remise des plannings 7 jours minimum à l'avance, augmentation des mensualisations un 13e mois et le respect des engagements pris par l'employeur. Voilà, donc toute une liste toujours aussi longue dans ce métier. Et pour rester précisément dans ce métier, eh bien ça fait deux mois de grève. C'était au 20 novembre, puisque celle-ci a débuté le 21 septembre pour les salariés de OMS Synergie de Paris Habitat dans le 20e arrondissement. Enfin, c'est une entreprise de nettoyage qui est employée par Paris Habitat dans le 20e arrondissement. Et puis aussi là, quelques misères, puisqu'ils ont eu le droit à 37 visites de la police, des négociations carrément absente, des menaces de licenciement, une procédure de licenciement en cours envers deux délégués syndicaux de Sud et un recours au TGI et enfin une médiatrice pour arranger donc le mépris des directions de OMS Synergie et de Paris Habitat. À Marseille, encore une fois, et là c'est la SNCM donc, une pépite hein, dans la lutte des travailleurs et des travailleuses. Et c'était donc au 22 novembre, des news fraîches, grève, c'était inscrit en lettres de feu, et pas par feu la SNCM. C'est les marins qui l'ont mise en place, qui l'ont mise en œuvre ce vendredi 20 novembre, suite à cette annonce attendue du tribunal de commerce, la SNCM tombera dans l'escarcelle du commerçant Patrick Roca pour 3,7 millions d'euros. Alors c'est un personnage haut en couleur, hein, quelque peu défraîchi d'ailleurs les couleurs, on verra ça après. La décision du tribunal acte la suppression de 583 emplois, la reprise de 873 salariés, mais sous quelles conditions, avec les filiales SNCM comprises, hein. Et la reprise donc de la SNCM à la sauce franco-française, les autres repreneurs ont été carrément reboulés. Et dès la réponse du tribunal, ben, l'Assemblée Générale s'est mise en place, décision, grève reconductible et occupation des navires, sauf pour EFO et le syndicat des travailleurs corse. EFO a même déclaré une flamme amoureuse, puisque ils ont dit à EFO que ces mouvements perpétuels qui ont largement contribué au déclin de l'entreprise. Champion, il faut, hein ? Chapeau. Donc, déclaration enflammée qui a dû mettre le feu dans le camp cégétiste. Samedi, une réunion générale se tenait en préfecture pour aménager tout ça, à savoir les 1400 salariés restants et restantes qui sont en CDI, et puis les autres aussi de la sous-traitance. Alors, je ne sais pas encore ce qu'il en est ressorti. Donc, le fameux personnage Roca, là, eh bien, c'est un industriel, hein, pour rien vous cacher, un commerçant, voilà. Il a 50 ans, il a 27 sociétés à son actif, qui forment donc un groupe, le groupe Roca, qui fait dans le transport, dans l'immobilier et dans les déchets. Le chiffre d'affaires, donc, c'est le monsieur chiffre d'affaires avant tout, sauf qu'en 2014, au mois de février, le tribunal correctionnel d'Ajaccio, lui, collait 3 mois avec sursis, 100 000 euros d'amende pour escroquerie, abus de biens sociaux, usage de faux. Et le 20 novembre, le tribunal a estimé que c'était l'offre la moins critiquable et la plus cohérente. Fermez le banc. Alors certains journaux titraient un repreneur sulfureux, c'est le moins qu'on puisse dire quand même. Chouette du courage aux camarades de la SNCM quand même, mais c'est pas fini quand même. Donc ça sera à suivre, toujours, SNCM. Et dans le Schnorr maintenant, ce sont les pompiers du SDIS, le service départemental incendie et secours, qui étaient en colère et en lutte. Qu'est-ce qui cloche ici? Ce sont les réductions de budget. Un président de conseil d'administration qui a démissionné, Joël Wilmot, qui est LR, comme on dit maintenant, LR, ça ne veut pas dire lettre recommandée, mais les Républicains. Un autre l'a remplacé, un autre LR, qui a pris donc sa place, Jean-René Le Cerf. Eh bien, ça continue de plus belle. Et c'est la merde dans les casernes. Même que Le Cerf a pris le prétexte des événements de Paris pour apaiser les tensions. Et en cette période où notre pays connaît, c'est sa citation, en cette période où notre pays connaît, etc., etc., blablabla, les mesures de restriction mettra le service public SDIS en difficulté, selon l'intersyndical. Deux manifestations ont appuyé les arguments de l'intersyndical en septembre et en novembre, et une autre est prévue en décembre. À Paris encore, donc c'était au 22 novembre, et là ça concerne le travail du dimanche, et c'est au BHV, au bazar de l'Hôtel de Ville de Paris. Les salariés ont envoyé paître la direction de la rue de Rivoli et son projet d'accord sur la question du dimanche, et donc le projet ne sera pas signé selon l'intersyndicale. Après une consultation des salariés et une assez faible majorité du non quand même, faut le dire, 640 voix pour 627 oui. Et à préciser que la CGT quand même est premier syndicat dans l'entreprise, BHV est sud et second. Le magasin BHV Rivoli est situé en zone touristique internationale. Allez, dixit donc le Macron distingué, le Macron illustré. Donc là aussi, c'est à suivre. Et puis pour terminer, on va passer Raillancourt Saint-Aul. Joli nom, n'est-ce pas? C'est dans le Schnorr aussi. Donc le 23 novembre, avec une grève sur la plateforme logistique Europe en zone d'activité Actipol dans l'entreprise Columbia Sportswear Company. Grève aussi logique que simple, puisque 6 postes de travail vont être supprimés, ce qui conditionne aux yeux des travailleurs et des travailleuses de cette entreprise, la suite, évidemment, à savoir travailler plus sans gagner plus et sans plus d'avenir. Donc, on ne négocie pas, on se bat. C'est un slogan de la CNT que nous accueillerons samedi à la Plume Noire.
Donc on va continuer parce que du coup il reste 5-6 minutes, donc pas de pause musicale, on va finir. On va vous reparler du coup d'un journal, on vous avait annoncé ça la semaine dernière, donc journal Idées Noires, issu de la commission jeune de la CGA, que vous pouvez retrouver sur le blog de la Com Jeune, ça doit être jeunelibertairelyon.wordpress.com.
Sur le Facebook de la CGA aussi, Lyon aussi, je pense.
On vous avait lu un petit article la semaine dernière, on va vous en lire un deuxième.
On va continuer du coup avec un article qui s'appelle cette fois-ci « Restructuration de l'extrême droite fasciste en France ». Nous apprenions le 7 septembre la future réorganisation du mouvement fasciste en France. Cette réorganisation a lieu au sein d'un petit parti d'extrême droite fondé en 1967 et qui depuis lors n'a jamais eu aucune influence ni militant ou militante. Le Parti Nationaliste Français. Attention. La restructuration comprend le ralliement de nombreux groupes d'extrême droite, notamment parmi les plus influents, Œuvre Française et Jeunesse Nationaliste, menée donc par Alexandre Gabriac pour les Jeunesses Nationalistes et Ivan Benedetti pour Œuvre Française, bien connus les deux. Ces organisations avaient été dissoutes en juin 2013 après l'assassinat du militant antifasciste Clément Méric par des militants d'extrême droite. Lyon sera évidemment concerné par cette restructuration. Les groupes Vénitieux Fait-Front et Lyon Nationaliste ayant tous deux annoncé leur ralliement au PNF, ces deux organisations sont pilotées directement par Gabriac et Benedetti, les VIP, petite parenthèse, very idiot person, du fascisme à la française. Ce renouveau de l'extrême droite radicale doit pousser tout progressiste et révolutionnaire à surveiller ses activités et à se préparer à répondre par tous les moyens nécessaires. Nous, les jeunes libertaires de Lyon, serons évidemment présents et présentes sur le terrain de l'antifascisme lyonnais et nous vous tiendrons au courant de nos activités à travers notre blog et la page Facebook de la CGA Lyon.
Donc voilà, voilà pour ce petit point, enfin cette petite info sur ce nouveau journal. Voilà, donc on espère qu'il y aura plein de numéros dans les mois qui viennent. Ouais. Donc on va continuer pour faire un petit point. Alors un petit truc que je voulais faire depuis un moment, voilà, parce que sur les réseaux sociaux avait fleuri après les attentats ce drapeau de merde sur énormément de pseudos. D'amis, pas d'amis, etc., etc. Donc,
si tu vas mettre son pseudo. Des trois couleurs, tu veux dire?
Voilà, des trois couleurs.
Ah, il y en a un joli qui est rue Burdeau, juste devant le local de la CNT.
On pourrait peut-être penser à l'angle de C4, c'est ça?
Ça, alors là,
le remettre en bien. Pas...
Voilà, donc juste pour rappeler.
Content, les camarades,
juste pour rappeler deux, trois choses, donc, quand même, que ce drapeau, représente le deuxième exportateur d'armes. Que il représente un état en guerre un peu partout dans le monde. Que il représente le pays qui enferme le plus d'enfants. Que c'est le drapeau qui représente un État qui exploite ici et partout dans le monde, qu'un État qui finance le terrorisme, l'État des chauvins, des réacs, des conservateurs, que l'afficher comme ça est une obscénité pour les opprimés, que ce drapeau tricolore symbolise aussi, bah c'est le symbole aussi de tous les nationalistes français, hein, du GUD au FN, en passant par le Parti nationaliste français dont on vient de parler, et c'est aussi le drapeau d'un État néocolonial. Donc voilà, donc pour les amis, si vous voulez arrêter de poser ce drapeau, ce serait bien. Il y en a plein d'autres choses à
y mettre. Voilà. Ils peuvent plus fournir d'ailleurs, même les.
Oui, on a entendu ça tout à l'heure au Canu Info. Voilà, ouais. Les fabricants pouvaient même plus fournir de drapeau. Ça craint, les jeunes s'engagent dans l'armée, ça craint. Enfin, voilà, ça. Promet des jours un peu bizarres, et puisqu'on a en opage un peu nos amis les bêtes, la bouffonne de la semaine, hein, elle risque d'être souvent aussi, elle paraît encore plus dangereuse que sa tante, donc là c'est la Marion Maréchal Le Pen, qui promet déjà plusieurs choses, hein, si elle est élue au régional, présidente de région, voilà, en PACA, donc elle promet de supprimer les subventions aux associations LGBT. Voilà, formidable. Et elle a aussi fait une petite sortie. Voilà, on va vous dire ça. Voilà, elle estimait que les musulmans ne peuvent pas avoir exactement le même rang que la religion catholique en France. Et elle continue. Il faut accepter de définir et de revendiquer quel est notre héritage et quelle est notre identité. Ça passe par l'affirmation de notre héritage gréco-romain et chrétien. Il faut dire que la France est une terre culturellement et très longtemps spirituellement chrétienne. C'est compliqué, hein. Et dans ces conditions, si des Français peuvent être musulmans et exercer leur foi, il faut qu'ils acceptent de le faire sur une terre qui est culturellement chrétienne. Ça implique aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas avoir exactement le même rang que la religion catholique. Ça promet pour la région PACA. Donc voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu fini tout ce que j'avais à vous dire. On va peut-être, du coup, faire un petit rappel des annonces, des permanences, etc. Donc, on vous invite, très chaleureusement, la CNTSO et la CGA Lyon vous invitent. Donc, ce samedi 28 novembre, à partir de 18h30, donc, à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, avec la projection du documentaire On a grévé, avec ensuite une petite discussion avec la présence de syndicalistes libertaires de la CGA, de syndicalistes de la CNTSO, et même le représentant parisien de la CNTSO Nettoyage, Étienne Deschamps. Donc tout ce beau monde sera là pour vous accueillir, répondre à vos questions lors de la discussion après le documentaire, donc n'hésitez pas à venir, c'est à prix libre, bien sûr, comme toutes les activités qui se passent à la Plume Noire. Donc c'est annoncé à 18h30, mais du coup on prendra le temps, on va te papoter un peu avant de boire un coup, de manger un peu, et puis la projection sera plus sur les coups de 20h. Donc voilà. Pensez bien du coup que si vous pointez à 18h30, il n'y aura pas l'approche tout de suite, mais vous pouvez quand même venir forcément à cette heure-là pour venir papoter un peu avec nous. Donc voilà, on vous rappelle aussi les horaires des permanences de la librairie La Plume Noire. Donc c'est le mercredi de 17h à 19h, c'est les samedis de 15h à 19h aussi, enfin 19h pas en tout court. On vous rappelle le site du groupe, donc c'est cgalyon.ouvintome.org, donc il y a la page Facebook, le Twitter, le site de la commission jeune, il y a aussi un site de la commission syndicale, enfin vous pouvez fouiller un peu dans tout ça, vous verrez, il y a plein d'infos à trouver, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous voulez plus d'infos sur notre groupe, notre fonctionnement, etc., etc. Et puis on va vous laisser tranquillement avec votre générique, avec notre générique,
super générique,
en vous souhaitant une bonne soirée, une bonne fin de semaine, et on se retrouve donc du coup mercredi prochain.
Absolument,
bonne soirée,
on sera là, hein, y a pas de problème.
Et n'oubliez pas de réserver aussi votre jeudi, hein. Votre jeudi 3 décembre, déjà. On se croit au niveau de la passe hétéro, si on n'est pas interdit. Et peut-être même si on l'est, on verra ça. On vous tient au jus.
Allez, ciao!